Bonjour à tous. Vous m'entendez bien ? Le micro, c'est bon ? Bonjour à tous. Je suis très content d'être là ce matin et j'espère que vous êtes aussi content que moi d'être présent ce matin par ce merveilleux dimanche ensoleillé. Et ce matin, nous allons traiter ensemble un sujet très important et un sujet très réjouissant. Vraiment, quelque chose, vous allez voir, de tout à fait particulier. Au cours de l'histoire, beaucoup d'hommes, surtout, les femmes ont été plus sages à ce niveau-là, beaucoup d'hommes ont prétendu être des dieux, des monarques, des rois. Ils se prenaient pour Dieu. Et a posteriori, nous savons, en visitant leur tombe, que tous ces rois n'étaient pas des dieux. Ils étaient bien mortels, comme vous et moi. Il y a un homme dans l'histoire aussi, en particulier, qui a prétendu être le Fils de Dieu. Cet homme, c'est Jésus. Et Jésus a dit lui-même, concernant sa mort, il a annoncé, il a dit ceci. Dans Matthieu, au chapitre 20, l'évangile de Matthieu, « Voilà que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme va y être livré aux chefs des prêtres et aux interprètes de la loi. » Ils vont le condamner à mort. Puis, ils le remettront entre les mains des étrangers qui se moqueront de lui, le battront à coups de fouet et finiront par le clouer sur une croix. Mais le troisième jour, il ressuscitera. Quelle audace de dire ça! Vous vous rendez compte, annoncer quelque chose comme ça? Soit la résurrection de Jésus est le fait le plus cruel et la plus grosse tromperie, on pourrait dire, le plus grand mauvais coup qui ait été fait à l'homme, soit c'est donc la plus grande des nouvelles et la chose la plus importante de l'histoire. Jésus-Christ, on va rester là, excusez-moi, je m'en mêle les pinceaux. Jésus-Christ est-il ressuscité, oui ou non? Était-il un menteur? Oui ou non? L'élément clé qui peut nous permettre d'avoir confiance en ce que disait Jésus, c'est précisément celui de sa résurrection. Car s'il est ressuscité, il est bien celui qu'il prétendait être, bien plus qu'un homme. Mais s'il n'est pas ressuscité, c'était un homme avec une bonne morale, une bonne philosophie, une vie exemplaire certes, mais qu'un homme. Et il ne peut rien faire pour nous aujourd'hui parce qu'il est mort. Il y a un texte dans la Bible, écrit par l'apôtre Paul, qui dit ceci, « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. » Tout s'effondre, ou tout tient debout sur ce fait-là. Si Jésus est véritablement ressuscité, notre foi n'est pas vaine. On ne croit pas en rien. Et ce matin, je vous propose ensemble, que nous jouions aux experts. Nous allons franchir la ligne jaune de l'histoire, la ligne jaune du crime qu'il y a eu envers Jésus, et nous allons enquêter ensemble. Est-ce que ça vous intéresse de pouvoir ensemble répondre à cette question, Jésus est-il ressuscité, oui ou non? Eh bien, puisque ça vous intéresse, comme à la télé il y a la pub, nous ici avant, nous allons chanter un chant qui parle de ça et qui nous remémore toute la vie de Jésus et sa résurrection. C'est le chant numéro 67, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Quel beau chant qui retrace la vie de Jésus, ce qu'il a fait. Ce matin, je vais m'inspirer de documents que j'ai lus de John Glass, mais surtout de Josh McDowell. Alors, qui est Josh McDowell? C'était un jeune universitaire, étudiant en archéologie, un passionné. Et Josh, dans sa faculté aux États-Unis, il est tombé amoureux d'une jeune fille chrétienne. Et en discutant avec cette jeune fille, ils ont parlé de Dieu, et Josh était un fervent défenseur de l'athéisme et pensait que Dieu n'existait pas, il en était convaincu. Et cette jeune chrétienne lui a partagé sur sa foi en Jésus, et il voulait lui la séduire et lui montrer sa brillante intelligence. Et elle l'a mis au défi, elle lui a dit, écoute, regarde les Écritures, sonde la Bible, regarde tous les éléments que tu as toi, comme tout le matériel que tu as toi en tant qu'archéologue, et puis nous en reparlerons. Et voici ce que conclut Josh McDowell, je le cite, « Après 2 ans, mes recherches se sont tournées contre moi. » Qu'a bien pu découvrir Josh ? Qu'est-ce qu'ont découvert tant d'érudits qui ont changé aussi d'avis à ce sujet? Qu'ont-ils découvert? Eh bien, je vous propose tout simplement de commencer avec la lecture du récit biblique, qui se trouve en Matthieu, au chapitre 27, verset 55, et la suite, s'il te plaît, Timothée.
Le passage que nous allons lire, il décrit les événements qui se sont passés juste après la mort de Jésus. Donc je lis dans Matthieu 27, verset 55. Il y avait aussi, à quelques distances de là...
Attends, stop. Excuse-moi, stop. Il y a quelque chose qui ne va pas. On est dans une église. Je suis chrétien. Je crois que la Bible est la parole de Dieu. C'est malhonnête. Je commence en vous induisant en erreur, forcément. Je pars sur le principe que je peux avoir confiance en ce texte. Et peut-être que certains d'entre nous se font cette réflexion qui est pertinente et qui mérite d'avoir une réponse. Alors excuse-moi, j'étais surpris, tu n'étais pas prévenu. C'était pour que ce soit vraiment authentique. La question cachée derrière cette remarque, finalement, c'est quelle est la fiabilité de la Bible ? Est-ce un support envers lequel nous pouvons avoir confiance ? Et beaucoup pensent que ce livre n'est pas fiable. Je voudrais juste vous dire ce matin que le Nouveau Testament regroupe plus de textes originaux que les 10 autres ouvrages les plus importants de l'histoire de l'humanité. Et je vais développer juste un petit argument vraiment avant de rentrer dans la lecture du texte, si tu me permets, Timothée. C'est ce que l'on appelle le test bibliographique. Alors, qu'est-ce que c'est ce test ? La question que se posent les historiens pour savoir si un événement s'est bien passé, c'est de consulter les documents de l'époque. Plus nous avons de documents que nous pouvons recroiser, plus nous pouvons croiser les informations, et si les informations se recroisent, et que nous en avons en plus de ça beaucoup, nous pouvons avoir de plus en plus la certitude que l'événement a bien eu lieu. Est-ce que vous comprenez ça ? Donc on cherche un maximum de documents, on les recoupe et on compare. Si les documents se croisent, on a la même information, on la valide, et c'est comme ça qu'a été retracée toute l'histoire de l'humanité. En 1973, nous avions 14 000 documents originaux concernant le Nouveau Testament, c'est-à-dire qui narre l'histoire de Jésus et le commencement de l'Église. C'est une partie de la Bible. 14 000 documents originaux. Aujourd'hui, après toutes les découvertes archéologiques, nous en sommes à 24 633 exactement. Alors ce chiffre ne vous dit peut-être rien, mais sachez que le deuxième livre le plus documenté de l'histoire est l'Iliade d'Homère. Et l'Iliade d'Homère, nous avons 643 manuscrits. Un simple calcul approximatif nous dit qu'il y a entre le numéro 1 de l'histoire et le numéro 2, 24 000 manuscrits de moins. Si on ne peut pas avoir confiance en la Bible, on ne peut avoir confiance en aucun livre historique. Maintenant que j'ai dit ça, je suis en mon âme et conscience en paix pour demander à Timothée de bien vouloir lire le texte biblique sur lequel nous allons nous appuyer ce matin.
Merci Raph. Donc, comme je disais, le passage que nous allons lire, il décrit les événements qui se sont passés juste après la mort de Jésus. Il y avait aussi, à quelque distance de là, plusieurs femmes qui regardaient de loin. C'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service. Parmi elles, il y avait notamment Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Vers le soir, un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée, se présenta. Lui aussi était devenu un disciple de Jésus. Il se rendit auprès de Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Pilate donna l'ordre de lui remettre. Alors Joseph prit le corps, l'enroula dans un drap de lin très propre et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis il fit rouler une grosse pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Or, Marie de Magdala et l'autre Marie restèrent assises là, en face de la tombe.
Le lendemain de ce vendredi, les chefs des prêtres et une délégation de pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire « Seigneur, nous sommes rappelés que de son vivant, cet imposteur a dit « Après 3 jours, je ressusciterai. Veuille donc donner des ordres pour que la tombe soit étroitement surveillée jusqu'à ce 3e jour. Il faut à tout prix éviter que les disciples ne viennent dérober le corps afin de pouvoir dire ensuite au peuple « Il est ressuscité d'entre les morts ». Cette dernière tromperie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara « D'accord, voici des soldats, assurez-vous du sépulcre et prenez toutes vos précautions pour le faire garder comme vous l'entendrez. » Ils partirent donc et firent surveiller la tombe en postant des sentinelles pour monter la garde après avoir apposé en leur présence des scellés sur la pierre.
Quand le sabbat fut passé et que le dimanche matin commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Tout à coup, il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Son visage brillait comme l'éclair, ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. À sa vue, les gardes furent saisis d'épouvante et tombèrent à terre. Mais l'ange, s'adressant aux femmes, leur dit « Vous autres, soyez sans crainte. Je sais bien que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait prédit. Venez voir la place où il était couché. Maintenant, allez vite prévenir ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Il va vous précéder en Galilée, c'est là que vous le reverrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent immédiatement le tombeau, tremblantes de peur, mais en même temps remplies d'une joie indicible, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voilà que tout à coup, Jésus lui-même se trouva devant elles, venant à leur rencontre. Il les salua. Elles s'approchèrent de lui, se jetèrent à ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit « Soyez sans crainte. » Allez annoncer la nouvelle à mes frères et dites-leur de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me reverront.
Les femmes eurent quitté le tombeau. Quelques soldats de la garde retournèrent à Jérusalem pour rapporter au chef des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci convoquèrent les anciens et, après avoir délibéré avec eux, ils donnèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne. Vous raconterez que les disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé le cadavre pendant que vous dormiez. Si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur, nous nous chargerons de l'apaiser, et nous ferons le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui. Les soldats empochèrent l'argent et répétèrent docilement la leçon qu'on leur avait apprise. Cette version s'est propagée parmi les Juifs, où elle est encore court aujourd'hui.
Merci. Alors j'espère que vous avez bien suivi l'histoire. Le texte était un petit peu long, mais il est vraiment important. Nous allons donc développer quelques arguments sur ce texte, mais avant ça, j'aimerais vous dire que à la fin de cet exposé, j'aimerais, avec tout ce que nous allons entendre, réfléchir, que nous puissions prendre un petit moment ensemble de silence pour réfléchir et de voir si chacun le veut, pouvoir faire un pas de plus dans la foi avec Dieu. Parce que ce que nous allons partager ce matin est très important. Et donc, nous allons, comme je vous l'ai dit, jouer aux experts, mais sérieusement quand même. Et nous allons explorer ensemble 4 pistes de réflexion. Nous allons regarder quelles ont été les précautions autour de cet enterrement, l'événement même de la résurrection, que s'est-il passé, les constatations qui ont pu être faites sur le moment, et enfin, voir ensemble s'il y a quelques points d'opposition. Alors, premièrement, les précautions de l'enterrement. Jésus a été enterré. Nous avons un autre texte qui est vraiment complémentaire, c'est celui dans l'évangile de Jean au chapitre 19, selon la coutume juive. Il a été enroulé de bandes de lin, trempé dans des aromates qui durcissent et forment un plâtre très solide. Et ce plâtre, avec tous les aromates et les bandelettes, faisait environ 45 kilos. Donc c'était vraiment une enveloppe, comme une chrysalide, hein, comme les papillons, solide, qui formait ce plâtre-là. Deuxièmement, il a été enterré dans un sépulcre juif connu et reconnu de tous. On sait où est-ce qu'il a été enterré exactement. Troisièmement, il y avait devant ce sépulcre une énorme pierre qui a été roulée. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce point. Quelle taille pouvait avoir cette pierre ? Le grec nous aide et nous apprenons que le nom de cette pierre, en grec, c'est un golel. Un golel, ça veut dire que c'est une pierre énorme. Le golel, dans des annotations de certains manuscrits, on peut lire que c'est une pierre qui ne peut être roulée par les hommes tellement qu'elle est lourde. Des ingénieurs sont allés en Israël, des ingénieurs américains, et se sont, en regardant une quantité de tombes et ont vu quelques golels, parce que c'était la tradition, se sont amusés à calculer combien pouvait peser un golel. Et le poids minimum qu'ils ont trouvé pour un golel, c'était de 1,5 tonne. Donc ça vous laisse comprendre le poids. Quatrièmement, une garde a été mise devant le sépulcre, nous dit le texte, une garde romaine, parce que Jésus a dit qu'il ressusciterait, donc ses disciples, ces malhonnêtes, peut-être qu'ils vont aller essayer de voler son corps, pour tous nous berner. Alors, les chefs religieux juifs sont allés voir les Romains et leur ont demandé une garde qui pourrait se poster devant le tombeau de Jésus. Combien de temps elle devrait rester ? Peut-être très longtemps, si Jésus ne ressuscitait pas. Et donc, ils ont demandé cette garde. Et là encore, une fois, le grec nous apporte un élément que nous n'avons pas en français. C'est que cette garde s'appelait un custodias. Alors, qu'est-ce qu'un custodias ? Alors, le custodias, selon Flavius Vigitus, qui a écrit sur les instituts militaires, à l'époque, pour réinstaurer des valeurs militaires très fortes dans l'Empire romain, écrivait ceci, que le custodias doit être composé de 16 hommes qui protègent chacun 2 mètres carrés. Un custodias, un soldat du custodias, doit être capable de garder 2 mètres carrés. C'est son boulot. À la vie, à la mort. Il ne bouge pas, il garde ses 2 mètres carrés. 16 hommes donc pouvaient garder 36 mètres carrés. Ces hommes étaient de véritables machines de guerre. C'est l'équivalent peut-être de notre GIGN en plus costaud. Moi-même à côté, je pèse 100 kilos et je suis une crevette. C'était des hommes très costauds, rompus à toutes les difficultés, tous les exercices, toutes les guerres. Et ces hommes, pendant la nuit, pendant la garde, faisaient un arc de cercle devant le tombeau et il y en avait toujours. Donc sur les 16, 4 qui dorment et 12 qui montent la garde pour que les hommes soient toujours reposés et aptes à combattre. Enfin, dernière précaution qui a été prise, c'est le sceau romain. Un sceau, nous dit le texte, a été posé devant, entre la pierre, le golel et le mur. C'était le chef du custodias qui déposait ce sceau. En scellant le tombeau, il jouait sa vie. Quand le custodias devait sceller un bâtiment et le garder, si le sceau était rompu, le chef du custodias était crucifié à l'envers. C'était sa responsabilité et il tenait ses hommes pour accomplir cette mission. Toutes ces précautions nous montrent que cet enterrement n'a pas été fait n'importe comment. Tout a été fait pour que nous soyons assurés que Jésus était dans ce tombeau. Le texte nous le confirme. Mais que s'est-il passé ce jour-là ? Qu'a vu Pierre ? Vous savez, ce disciple de Jésus qu'il a renié dans la nuit de sa condamnation 3 fois avant que le coq ne chante. Qu'a vu Pierre qu'il a transformé au point que 30 ans plus tard, lui-même, au nom de Jésus, est mort crucifié à Rome. Qu'est-ce qui a pu le bouleverser ? Qu'a-t-il vu ? Ceci nous mène naturellement au moment de la résurrection. Et le texte nous dit qu'un ange est venu rouler cette pierre et que les gardes sont tombés comme morts. Pourquoi l'ange aurait roulé la pierre? Jésus, si c'était vraiment le Fils de Dieu, aurait pu sortir tout simplement, par téléportation, je ne sais pas. Pourquoi la pierre a été roulée? Parce qu'il voulait que nous puissions voir qu'à l'intérieur, il n'y avait plus de corps. Et le verset 11 de ce texte nous dit que les gardes romains, quand ils se sont réveillés, sont allés courir voir les chefs religieux et leur ont dit que le corps avait disparu et pour sauver la mise, parce que sinon ils allaient être tués. Et donc, à ce moment-là, les Juifs les ont soudoyés, leur ont donné de l'argent. Si ce custodias avait été incompétent, qu'auraient fait les chefs religieux juifs? Ils auraient couru voir Pilate, le gouverneur, et lui auraient dit « Les hommes que vous nous avez donnés, c'est des incapables, des incompétents. » Et du coup, on a volé le corps de Jésus. Mais ils savaient qu'ils pouvaient avoir confiance en ces hommes, donc ils ont voulu les soudoyer pour qu'ils gardent le silence. Les Juifs ont dû probablement envoyer une délégation avec le custodias pour constater les faits. Et qu'ont-ils pu constater? Premièrement, ils ont constaté que le sceau était rompu. Alors le chef, lui, savait qu'il risquait la crucifixion à l'envers. Deuxièmement, que la pierre avait été effectivement roulée. Mais comment est-ce possible? Vous savez, dans le texte original, les quatre évangiles se complètent pour nous apporter des détails qui enrichissent le récit. Dans Matthieu, le verbe qui est utilisé pour parler de cette pierre roulée, c'est le verbe en grec « koulio ». Donc « koulio », ça veut dire « rouler ». Dans l'évangile selon Marc, nous avons « anakoulio », qui veut dire « rouler vers le haut ». Dans celui de Luc, nous avons « apokoulio », qui veut dire « séparer d'eux », mis plus loin. Et enfin, dans l'évangile selon Jean, nous avons « aïero », porter quelque chose. Ça veut dire que la pierre a été roulée, soulevée et mise plus loin vers le haut. Une pierre de 1,5 tonne. Ça ne vous interpelle pas? Une pierre de 1,5 tonne montée dans une pente? Vous imaginez la charge? Pourquoi les disciples de Jésus, ces hommes qui étaient agriculteurs, des pêcheurs, des hommes du peuple normal, ils se seraient donné autant de mal pour déplacer cette pierre? Et comment expliquer qu'ils auraient pu tromper ces hommes qui étaient devant le tombeau avec leur lance, les yeux à l'horizon? Ils seraient passés entre ces hommes et auraient déplacé cette pierre? C'est pas possible. Pour enrichir ça, nous avons Polybius, alors un autre penseur de l'armée romaine de l'époque, un chef militaire. Il a établi une liste d'infractions pour lesquelles un custodias pouvait être tué. Alors je vais vous en lire 2-3, parce que j'ai trouvé ça quand même intéressant. Voilà ce qui était punissable de mort pour un soldat romain. Parler avec l'ennemi, ça peut se comprendre dans une certaine logique. La désertion aussi, la perte d'un bras. Ok, inapte, déclaré inapte. La désobéissance, quitter son poste, manque de respect envers un supérieur, se mutiler soi-même pour ne pas aller au combat, quitter la garde de nuit ou s'endormir. Est-ce qu'un custodias se serait laissé aller dormir pendant le moment le plus critique de l'histoire, une période de telle tension autour de cet enterrement? Quelle faute professionnelle il aurait fait? Quand un custodias échouait, un homme était tué automatiquement. Un custodias était un poste pendant une bataille. S'il avait reculé le soir, ne serait-ce que d'un mètre, un de leurs hommes était tué au hasard. Même en 390, on sait qu'une garde entière a été jetée depuis le sommet d'une falaise parce qu'elle avait failli à sa mission. Est-ce que vous imaginez la pression qu'il y avait sur ces hommes? Ce que nous avons pu aussi constater, c'est que le tombeau n'était pas vide. Il restait dans ce tombeau le linceul qui entourait Jésus. C'est ce que Jean a vu, le disciple de Jésus. Et quand il a vu ça, il crut. Le corps n'était pas là. Le tombeau n'était pas vide. Quelle explication autre que la résurrection peut avoir ce récit? Comment ces hommes auraient pu faire ça? Alors, certains hommes dans l'histoire ont apporté des oppositions. Et nous allons ensemble voir un petit peu trois de ces oppositions. Alors, Jésus n'est qu'un homme, et en fait, il n'était pas mort quand on l'a mis dans le tombeau. Alors, cette réflexion est très logique, elle est très intelligente, à moins qu'on réfléchisse. Souvenez-vous, Jésus est attrapé par la garde romaine, emmené devant un tribunal juif. Là, il est rossé de coups, ensuite livré aux Romains. Les Romains le frappent à coups de bâton. Après ça, il doit porter une croix jusqu'à un mont qui est à plusieurs centaines de mètres de là. Là-haut, il est crucifié avec des clous gros comme ça, dans les poignets et dans les chevilles. Puis, pour être sûr qu'il est bien mort, un garde romain lui met un coup de lance dans les côtes. Et le sang et l'eau coulent abondamment. Après ça, on le décroche, il tombe par terre, il se fracasse, au moins d'un mètre cinquante de haut. Là, il est emplâtré de la tête aux pieds sans trou pour respirer, avec un plaque qui fait 45 kilos, qui doit bien écraser en plus. On le met 3 jours roulé derrière une pierre dans un tombeau, sans manger, sans boire, sans rien. Et lui, le 3e jour, il s'étire, il casse le plâtre, il fait quelques échauffements, il prend la pierre, il la soulève et il se bat contre 16 hommes armés de guerre et il s'en va. Ça ne tient pas. Deuxième opposition que certains ont formulée, c'est que les Romains ont volé le corps. Alors celle-là aussi, elle est bien. Les Romains qui veulent certifier à tout prix que le corps était bien là, qu'il était bien gardé, auraient volé le corps. Mais pour tout faire tomber à l'eau, ce mythe de ce Jésus, il suffisait de montrer son corps quand il a soi-disant prétendu être ressuscité. Une autre théorie, c'est que les femmes, les premières qui se sont rendues au tombeau, en fait, sont allées voir un autre tombeau. Elles se sont trompées. Elles vivent. C'est vraiment les prendre pour ce qu'elles ne sont pas, les pauvres. Mais si les femmes se sont trompées, si on suit ce raisonnement, c'est que les hommes se sont trompés. Et si les hommes se sont trompés, c'est que les juifs se sont trompés. Et si les juifs se sont trompés, c'est alors que les romains se sont trompés. Et si les romains se sont trompés, c'est que même l'ange s'est trompé. Ça n'a pas de sens. La seule explication, c'est que Jésus est véritablement ressuscité. Quelle nouvelle! Quelle chose extraordinaire! Et moi, c'est ça qui me rend tellement heureux ce matin. Vous vous rendez compte? Jésus est ressuscité. Et ça, ça nous demande un pas de foi. C'est pas simplement qu'une liste de preuves auxquelles nous devons croire intellectuellement. Mais la foi n'est pas non plus un suicide intellectuel. Dieu nous a laissé des traces qui nous permettent d'attester historiquement que Jésus est véritablement ressuscité. Est-ce que vous réalisez ça? Aujourd'hui même, il est vivant. Il était celui qu'il prétendait être. Et s'il est vivant, il peut intervenir dans nos vies. Avant de conclure, j'aimerais qu'ensemble nous chantions le chant 229. Oui, levons-nous pour chanter ce merveilleux chant.
Pourquoi parmi les morts chercher les vivants.
Jésus est ressuscité, comme la lumière du soleil levant. Sache la vérité,
Jésus est ressuscité. Dans la vie nouvelle qu'il nous a donnée,
Jésus est ressuscité. Alléluia, Jésus est ressuscité.
L'ennemi est vaincu, il est dévasté.
Jésus est ressuscité. La victoire, nous sommes libérés.
Jésus est ressuscité.
Alléluia, Jésus est ressuscité. Glorifions Jésus, il a vaincu la mort. Jésus est ressuscité. Louons et chantons-le, il est le plus fort.
Jésus est donc bien celui qu'il prétendait être, car il est ressuscité. Il l'avait annoncé, et sur cette croix, il a fait ce qu'aucun autre ne pouvait faire pour nous. En ressuscitant, il a montré sa supériorité, sa divinité au-dessus de tout. Aujourd'hui, c'est cette bonne nouvelle extraordinaire. En cette fête de Pâques, c'est là qu'on fête la résurrection de Jésus, fête qui a perdu son sens au cours des siècles, que nous voulons rappeler cette vérité-là, qui est tellement importante pour chacun d'entre nous. Jésus est ressuscité. Et ce que cela implique, c'est qu'il peut nous offrir ce dont nous avons besoin le plus au monde. C'est le pardon de Dieu. Il est la preuve, au-dessus de tout ce que nous avons partagé, de l'amour profond de Dieu envers nous. Quelle preuve d'amour. S'offrir en sacrifice pour nous et ensuite triompher de cette mort pour nous offrir cette merveilleuse vie. Ce que cela implique, c'est que aujourd'hui et de toute éternité, Jésus-Christ est le Seigneur de la terre et qui peut nous offrir un plein pardon pour notre passé. Il peut tout pardonner. Il nous offre une solution pour notre vie, une réponse à ce que nous avons au plus profond de notre cœur. Et cette espérance inébranlable que comme il a ressuscité, un jour nous aussi nous ressusciterons, bien que ça semble complètement fou. C'est incroyable, mais c'est Dieu. Nous ressusciterons et nous serons avec lui. Moi, je sais que je vais ressusciter. J'en suis sûr. Et vous ? Nous sommes à la fin de ce moment de réflexion. Et comme promis, j'aimerais que maintenant, il y ait eu beaucoup d'informations, on a dit beaucoup de choses, mais profondément, derrière toutes ces preuves historiques, toutes ces choses, il y a Dieu qui a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous. Et ce matin, maintenant, je vous invite à ce qu'ensemble, on puisse prendre un temps dans le silence. Parce que vous savez, Jésus n'est qu'à une prière de distance de chacun de nous. Et que ce soit la première fois que nous soyons, que nous sommes là ce matin, ou que ça fasse 20, 30 ans, qu'on prenne un moment de silence pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Et si vous n'avez pas fait cette démarche avec Jésus, ce pas de foi, ce matin-là, maintenant, moi je vous propose de le faire, dans le silence. Il sait ce qui est au plus profond de notre cœur et on peut lui parler. Et le groupe de musique va nous conduire dans un petit moment de réflexion où chacun, nous pouvons maintenant faire ce pas-là de foi envers Jésus et lui dire « Je crois que tu es mort et ressuscité et que tu es vivant. Et maintenant que tu es vivant, je t'appelle au secours. Viens dans ma vie. J'ai besoin de ce pardon. J'ai besoin de tes solutions et de ton espérance. »